Salut Aurélien.
Bonjour.
Tu vas bien?
Très bien, et toi?
Bah écoute, oui, très bien. Puis je suis heureuse de te recevoir dans cet épisode parce qu'on va s'intéresser à la façon dont tu intègres le legal design à ta solution SaaS. Et surtout, à la fin, tu nous réserves l'annonce d'un super événement, mais j'en dis pas plus. Donc, déjà pour commencer, qui es-tu?
Déjà, merci de l'invitation. Du coup, je suis ravi de pouvoir discuter de ça avec toi. Donc moi, je suis Aurélien Rigaud. Je suis le fondateur de la société ILO, le cofondateur de la société ILO, dont je pourrais dire un mot juste après. Un petit mot sur mon parcours. Moi, j'ai eu une formation plutôt business, finance. Commencé en tant que DAF dans un accélérateur de start-up aérospatiale. Juste après ma sortie d'études. Et en fait, j'ai été assez rapidement confronté à des points juridiques, juridiques qui m'ont toujours intéressé, puisque en fait, initialement, avant l'école de commerce, je regardais plutôt les écoles de droit. Et donc, voilà, assez naturellement, je me suis remis vers ce sujet. Et donc, aujourd'hui, je suis donc directeur général de la société ILO, qu'on a fondée en 2019. Donc, ça fait 3 ans.
Très bien. Et
Voilà.
oui, donc c'est cool parce que t'es pas juriste. Et moi, j'aime bien ce type de profil qui arrive à percer un petit peu dans le monde de la legal tech. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ILO? Ça s'écrit comment déjà?
Ça s'écrit ILOH.
Ok.
Voilà, c'est un acronyme du anglais qui veut dire Innovative Legal Open House.
Ok,
Voilà.
d'accord.
Et donc c'est une solution de gestion contractuelle de bout en bout qui s'appuie sur une structure de closier dynamique. Voilà, pour améliorer la traçabilité et pour pouvoir permettre une automatisation des contrats, une vraie automatisation dans des bonnes conditions de la rédaction de contrat. Et on couvre également toutes les briques donc du processus contractuel, la rédaction, la négociation, le partage et également la gestion de post-signature. Donc c'est vraiment de bout en bout. Nous, notre volonté, c'est de mettre un fort accent sur la sécurité. Avec voilà, une utilisation qui peut être individualisée, ça c'est pertinent notamment dans les grandes structures, mais un accent également sur la diffusion de la culture juridique. Parce que donc, n'étant pas juriste, comme tu l'as rappelé, je sais que du coup, les opérationnels qui ne sont pas des juristes, souvent ils vont sur les points juridiques avec un peu à reculons, on va dire ça. Et donc, il y a un vrai enjeu de diffusion de la culture juridique au sein de la structure, peu importe sa taille en fait, tout simplement pour ne pas mettre les sujets sous le tapis, pardon, mais de pouvoir les adresser dans des bonnes conditions. Et donc, l'intérêt de la solution, c'est de pouvoir mettre à disposition du contenu de manière sécurisée, mais également de pouvoir guider les opérationnels, de leur donner des conseils, des précisions, etc., pour les rendre plus autonomes sur un certain nombre de sujets, et surtout pour que l'équipe juridique puisse être sollicitée vraiment sur les sujets critiques ou à forte valeur ajoutée, plutôt que toujours sur les mêmes questions, les petits sujets, etc. Donc, il y a cet enjeu. Et également un point qui nous intéresse aujourd'hui. La pertinence donc du legal design dans ce sujet de la diffusion de la culture juridique. Voilà, donc on a développé donc un univers de fonctionnalités legal design pour l'intégrer à la gestion contractuelle, puisque la gestion contractuelle, il y a aussi une dimension relation contractuelle que nous on voit passer par le legal design notamment.
Alors déjà, moi j'ai deux questions. C'est d'où te vient cette idée? Parce que à la base, je pense que tu l'avais pas forcément intégrée dans ta solution.
Tout à
Et
fait.
la deuxième question, c'est toi, comment tu pratiques le legal design? Ça peut être intéressant d'avoir le point de vue d'un non-juriste qui crée un outil SaaS legal tech.
Oui, tout à fait. Mais en fait, j'ai découvert le legal design en rencontrant une personne que tu connais, qui est donc Stéphanie Marie-Batardière, qui est avocate en droit des sociétés. Et qui utilise le legal design au quotidien. Et donc, je l'ai rencontré au village de la Legal Tech en 2018 ou 2019. Elle était intéressée par la solution de gestion contractuelle et en discutant avec elle sur son activité, j'ai découvert le legal design. et l'utilisation très pertinente selon moi qu'elle en fait, c'est-à-dire utiliser le legal design pour simplifier la compréhension de ses clients non juristes sur les sujets juridiques. C'est-à-dire que la première base de ces relations clients, c'est via un outil legal design, une matrice du coup visuelle qui permet de clarifier l'ensemble des points qui figureront ensuite dans le contrat ou les documents juridiques qui seront rédigés. Mais c'est la première base et en fait, c'est une utilisation qui me paraît très pertinente et c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir comment est-ce que nous, on pouvait intégrer le legal design dans le sujet de la gestion contractuelle.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Pour le point de départ.
Ouais. Et je te coupe trois secondes. Je pose toujours plein de questions, pas forcément dans l'ordre. Tu t'es formé sur le design thinking ou tu as appris sur le tas comment t'as fait ?
Alors, j'ai appris sur le tas, mais du coup, j'ai aussi beaucoup échangé donc, avec Stéphanie qui m'a fait passer pas mal de lectures sur cette méthodologie, sur le legal design en particulier, voilà, pour vraiment apprendre le fonctionnement et pour pouvoir l'appliquer de la bonne manière dans notre solution, l'appréhender voilà, de la bonne manière pour l'inclure dans notre solution de gestion contractuelle. Donc, moi, je ne prétends pas du coup pouvoir construire des outils de legal design sur des sujets juridiques, mais du coup, j'applique cette méthodologie sur le développement de notre solution. Voilà, à savoir se mettre à la place du client ou de l'utilisateur, comprendre parfaitement son besoin, passer du temps à discuter, etc., avant de commencer à construire une nouvelle fonctionnalité ou un univers de fonctionnalités, par exemple, comme le legal design. Donc, je l'applique au quotidien.
Quand on arrive dans ta solution, est-ce que le mot legal design est évoqué ? Est-ce que, je veux dire, c'est une brique à part ? Est-ce que c'est une fonctionnalité à part ? Ou est-ce que c'est juste la méthodologie que tu as utilisée pour construire ta plateforme ?
Alors, c'est en effet la méthodologie qu'on a utilisée pour construire la plateforme et pour la développer au fur et à mesure, voire pour ajuster les premiers développements qu'on a fait aussi, puisqu'on fait évoluer la solution évidemment au fur et à mesure et constamment. Mais c'est bel et bien un univers de fonctionnalités qu'on peut trouver dans la solution, donc dans un menu qui s'appelle Legal Design et qui permet donc de construire des outils en Legal Design, qui permet de pouvoir les partager en interne et en externe, voilà, ou également de construire du coup des designs qui sont prévus plutôt pour de la communication interne, par exemple, voilà, sur les processus internes. Souvent, c'est des documents extrêmement longs hein, dans les grosses structures. Donc, il y a pas mal de structures qui cherchent d'utiliser le legal design pour clarifier l'utilisation et permettre aux différentes parties prenantes de pouvoir s'y référer facilement et de manière plus agréable. Voilà, donc c'est vraiment un univers qui est disponible dans la solution et qu'on tend au fur et à mesure à imbriquer davantage dans la solution pour que ça devienne vraiment le cœur de la solution également pour les utilisateurs, mais voilà, également pour des relations en interne et en externe via la solution. Pour l'instant, c'est un univers distinct.
Oui.
Au fur et à mesure, on utilisera le legal design dans toutes les briques de la solution. C'est l'objectif.
C'est cool. Oui, donc je reviens à cette brique-là. Donc tu proposes, par exemple, de pouvoir faire un schéma. Tu as développé tout ça en interne, j'imagine.
Oui. Tout à fait, exactement. C'est aussi un de nos choix stratégiques qu'on a fait depuis le départ sur l'ensemble de la solution, c'est de ne pas s'adosser à d'autres outils, notamment les outils américains, mais de développer l'ensemble de nos fonctionnalités en interne pour garantir la sécurité de la donnée, la pleine gouvernance des données aussi de nos clients, et la pleine indépendance du développement de ces fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on peut vraiment envisager toutes les possibilités de couvrir tous les besoins que nos utilisateurs peuvent rencontrer. On est vraiment entièrement flexible et maître de nos développements. Évidemment, la facilité aurait été de faire l'intégration d'outils de design. Alors, il en existe un certain nombre, mais nous, on a préféré, voilà, comme sur les autres points de la solution, redévelopper tout en interne, voilà, pour être maître de nos agissements.
Okay. Bah c'est une sécurité en plus. En réalité, en ce moment, il y a beaucoup de sujets liés justement à la sécurité, au fait que les données doivent être hébergées en France. Et donc, je pense que c'est un argument commercial aussi pour toi.
Très clairement, très clairement. Et puis là, récemment, on vient de voir qu'il y avait une directive donnée aux différents ministères de ne plus passer par les solutions Microsoft Azure Cloud. Voilà, justement pour garantir la sécurité. Donc, j'ai envie de dire, il était temps puisque on en entend parler quand même depuis un bon bout de temps du Cloud Act et des solutions américaines qui peuvent récupérer un certain nombre de données qui sont hébergées sur leur serveur sans avoir à informer les propriétaires des données. Donc là, on voit que le ministère commence à bouger en ce sens. Et en effet, il y a de plus en plus de grands groupes qui cherchent à plutôt opter pour des solutions françaises hébergées en France, développées en France et qui ne nécessitent pas du coup des serveurs de passer par des serveurs étrangers. Donc, c'est un choix stratégique qui n'est pas forcément celui de la simplicité, mais voilà, on reste du coup derrière ce choix. C'est clairement un élément commercial fort pour nos clients.
Et le legal design aussi. Et donc, on a un peu dérivé vers un autre sujet, mais du coup, pour revenir au legal design, est-ce que tu aurais la référence, je ne sais pas, d'un ou deux bouquins pour que les gens puissent se former, puisque je crois que ce sujet intéresse de plus en plus les juristes.
Oui, tout à fait. Alors, plutôt que moi donner un bouquin comme ça, je vais plutôt te réorienter vers un nouvel espace de communication que Stéphanie a créé et qui va être, qui va bientôt du coup se positionner. C'est justement un espace de communication. Ça s'appellera le Legal Design Book Club. Et donc, qui lui permettra de présenter les livres de référence du legal design et surtout aux différentes personnes intéressées de pouvoir échanger, partager leurs références, échanger sur les différents points. Voilà, ça sera une petite bulle un peu distincte, moi qui me paraît tout à fait pertinente. L'expertise du legal design est juridique. Je pense que voilà, pour être de meilleurs conseils que moi.
C'est une belle combinaison. En plus, le legal design, je pense que c'est clairement une matière qui n'est pas théorique. C'est-à-dire que faut vraiment le faire pour progresser. Donc elle, effectivement, vu qu'elle le pratique dans ses propositions commerciales en tant qu'avocate, ce sera intéressant d'avoir son retour d'expérience grâce à cette communauté.
Oui, tout à fait. Comment faire les premiers pas, hein, c'est toujours le plus délicat. C'est la peur de la page blanche, en fait, hein, qu'on entend souvent quand on parle du legal design, nous, au quotidien, du coup, à nos prospects, à nos utilisateurs, qui sont très intéressés par ce sujet, mais souvent, c'est un peu la crainte de la page blanche. Donc, en effet, elle, de par son expertise, et ses débuts sur le legal design, on pourra vraiment partager sur comment est-ce qu'on fait ses premiers pas, comment est-ce qu'on définit peut-être le premier sujet, qui n'est pas forcément un gros sujet au départ, mais il faut commencer quelque part pour apprendre la méthodologie, l'appliquer, etc., avoir les bons réflexes aussi. Et c'est également un enjeu pour nous, en proposant ces fonctionnalités de legal design, on essaie de mettre en place un maximum de supports visuels, vidéos, des matrices qui peuvent justement aider à ne pas être bloqué et à vouloir faire ses premiers pas sur la solution.
Oui, ce serait le comble que tu proposes une solution legal design et que tu proposes un mode d'emploi illisible pour comprendre ta solution.
Voilà, tout à fait. C'est exactement ce qu'on ne veut pas, l'écueil qu'on veut éviter, bien sûr.
Alors, le sujet, il t'a tellement intéressé et puis tu as fait une super rencontre avec Stéphanie. Et je crois que tu m'as parlé d'un événement Tour de France et je suis vraiment contente que tu en parles dans mon podcast parce que je trouve que c'est génial quoi, de rapprocher cette matière des villes comme ça. Donc, est-ce que tu peux m'en parler?
Oui, tout à fait. Donc, avec cette rencontre et nos différents échanges pour construire ces fonctionnalités et évangéliser le legal design, tout naturellement, on en est venu à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait évangéliser dans des plus grandes mesures, on va dire. Et donc, on travaille donc sur cet événement donc, que tu as mentionné, qui est donc un tour de France du legal design, puisque l'idée derrière ça, comme tu dis, de rapprocher le legal design des villes, c'était de sortir un petit peu des limites de la région parisienne. On sait que il y a beaucoup d'innovations qui se font en région parisienne. Voilà, souvent les sujets d'innovation sont plus pris par la main en amont sur Paris et autour. Donc l'idée, c'était de sortir de ça et de se rapprocher des régions pour faire un événement d'ampleur nationale, mais proche des différentes régions. Donc, comment est-ce que ça va se passer? On a prévu 9 villes étapes. Voilà, donc on aura Strasbourg, Lille, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, dans lesquelles donc on passera. Ça commencera donc en janvier 2022. L'annonce officielle sera faite au rendez-vous des transformations du droit 2021. Et donc, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le legal design, ça se pratique. Alors, on peut lire beaucoup de théories, mais pour le comprendre et pouvoir l'appliquer, ça se pratique. Donc, l'objectif, ce n'est pas de faire des journées théoriques. Voilà. Ça sera donc de faire une petite partie théorie sur la méthodologie, l'intérêt du legal design au quotidien dans la relation client entre juristes et non-juristes, notamment. Mais ensuite, des temps forts de pratique. Donc, ça sera des ateliers d'une quinzaine ou vingtaine de participants, comment dire, interprofessionnels. Voilà, donc on aura des avocats, des notaires, des experts comptables aussi. L'idée, c'est de vraiment s'appuyer sur l'interprofessionnalité pour faire germer des bonnes idées, puisqu'en fait, ils sont confrontés aux mêmes problématiques hein, vis-à-vis de leurs clients non juristes, en tout cas. Donc, des temps forts de pratique. Chaque équipe, par journée, devra produire sur une thématique commune un visuel, un outil legal design. Et à la fin de ces 9 villes étapes, on aura donc la finale qui se déroulera au rendez-vous des transformations du droit 2022. Okay. Et qui sera l'occasion pour un jury d'experts legal design d'analyser les différents visuels qui auront été remis par les participants et d'élire un vainqueur. Voilà, qui pourra bénéficier notamment d'un accompagnement plus opérationnel pour distiller le legal design dans son activité au quotidien.
Non, bah c'est, voilà. Non, bah, je sens que vous allez faire de belles rencontres, mais tu as dit que les ateliers étaient réservés à une quinzaine de personnes, donc il va falloir que les juristes postulent, c'est ça ou pas du tout?
Oui. Tout à fait. Alors en fait, pourquoi en fait c'est une quinzaine, vingtaine de personnes? Tout simplement parce que des ateliers pratiques pour que chacun puisse faire ses premiers pas, avoir la possibilité d'échanger avec les personnes de son groupe dans des bonnes conditions, il vaut mieux que ça soit des groupes restreints. Voilà pourquoi on ne fait pas des journées à des dizaines et des dizaines de participants. On aimerait, du coup, mais ça sera peut-être pour une V2 du Tour de France. On aura d'autres experts legal design qui seront intéressés pour se joindre à nous dans l'organisation de l'événement et dans la tenue, l'animation des ateliers. Mais voilà pourquoi on a choisi ce petit format. L'idée, c'est qu'en fin de journée, par contre, on puisse rassembler davantage de monde pour une table ronde, notamment sur les différents sujets d'innovation dans le monde juridique. Voilà. Au-delà du legal design, inclut le legal design bien sûr, mais aussi au-delà du legal design, donc une table ronde plus globale, sans limite de participants, enfin S'il y aura une limite de participants, mais donc ça ne sera pas forcément sur inscription. Mais de participer aux ateliers donc sur chacune des journées, en effet, il faudra que les gens puissent s'inscrire. Et donc, on est en train de travailler justement sur le site Internet pour pouvoir automatiser un petit peu les inscriptions. Et donc, voilà, je pense que la plateforme d'inscription, je pense, sera ouverte d'ici la fin du mois d'octobre à peu près. Et ça laissera largement le temps aux différents intéressés de pouvoir se positionner, s'inscrire ou également proposer leur ville. Parce que nous, on en a prévu donc 9. Après, on est intéressé pour visiter toute ville qui pourrait être intéressée pour accueillir cet événement, également peut-être dans une V2 aussi. Donc voilà, personne qui est intéressée, elle peut dire bah, « moi, je n'ai pas de ville proche de chez moi ou il n'y a pas d'événement chez moi », elle pourra aussi directement proposer sa ville.
Bon, mais parfait, belle annonce en tout cas. Donc, si vous êtes intéressé, il faut contacter Aurélien, tout simplement.
Oui, tout à fait, exactement.
Tu as évoqué un sujet assez intéressant là, c'est l'interprofessionnalité. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'avocats qui pratiquent le legal design, mais je ne sais pas trop ce qu'il en est des autres métiers du droit. Est-ce que toi, tu as un ressenti sur ça ou pas ?
Alors, je sais qu'il y a des notaires qui pratiquent le legal design, notamment. J'avoue que je ne sais pas trop ce qu'il en est pour la partie expertise comptable, mais je sais que c'est un sujet qui est adressé par les différents ordres. Et nous, justement, ce qu'on voulait, ce n'était pas cantonner le legal design à seulement la profession d'avocat ou de juriste en entreprise. Parce qu'en fait, on a une thématique qui sera donc la même sur les différentes villes étapes, mais qui s'adresse du coup de la même manière à toutes les professions juridiques. Et donc, on n'a vraiment pas voulu un événement cloisonné, mais vraiment que chaque participant puisse bénéficier de la vision et du retour d'expérience des autres professions juridiques.
Voilà. D'accord, ouais. C'est bien, mais par contre, c'est un petit peu compliqué peut-être de trouver des sujets transverses. Enfin, je ne sais pas, on aura le. Enfin, moi, je viendrai voir ce qui s'y passe à ces ateliers, je serais curieuse.
Eh bien, avec grand plaisir, bien sûr. En fait, la problématique qu'on a choisie et qu'on trouve justement en transverse, c'est. On parlait tout à l'heure de la diffusion de la culture juridique. Et c'est justement comment diffuser la culture juridique auprès de vos clients. D'accord ? Et donc ça, en fait, c'est un sujet auquel sont confrontés les avocats, comme les juristes, comme les notaires et comme les experts comptables, en fait. Puisque très souvent, ils vont parler à des non-juristes. Et donc, leur enjeu, c'est comment est-ce que dans leur pratique, dans leur façon de communiquer, dans leur façon de présenter l'information juridique, ils vont pouvoir justement distiller les points essentiels juridiques à leurs clients. Et donc, ça, pour nous, c'est vraiment une problématique transverse et que chaque profession puisse avoir le regard des autres professions du droit, ça nous a paru très pertinent parce qu'on peut avoir un regard critique sur soi-même, mais c'est toujours intéressant, sachant qu'il y a de multiples sujets sur lesquels les différentes professions juridiques vont travailler ensemble. Et donc, l'idée, c'est aussi qu'elles puissent se construire ensemble un visuel, une manière de communiquer pour, voilà, par exemple, présenter à leurs clients les différentes spécificités de chacune des professions, comment elles s'imbriquent ensemble, quelle est la valeur ajoutée de chacun pour, voilà, par exemple, clarifier le rôle de chacun auprès du grand public, par exemple des justiciables.
Donc ouais, le legal design, c'est, pour moi, c'est une façon de redorer le blason des professions juridiques, clairement, et c'est de faire comprendre que le droit, c'est pas juste un empêcheur, ça peut être aussi un levier de performance.
Oui, tout à fait, exactement, c'est tout à fait ça l'enjeu. Et c'est en ça aussi que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur nous, notre conception de ILO en tant que diffuseur de culture juridique. c'est pouvoir aligner les enjeux juridiques avec les enjeux business quand on est au sein d'une entreprise, mais également du coup les enjeux des justiciables. Voilà, de pouvoir clarifier ça, améliorer les échanges d'informations pour que chacun avance dans la même direction de manière claire et le plus efficacement possible. On est entièrement d'accord là-dessus.
Ok, bon, mais je crois qu'on a fait le tour de toutes mes questions. Bon, ben, je pense que ILO, c'est clair, tu vois toi ton outil comme un outil de performance, en fait, au-delà de l'outil juridique. Donc, moi, c'est ce que je retiens. Et tu pourras me donner peut-être les dates des événements, enfin de ton Tour de France. Me donner
oui,
les liens,
tout à fait.
Comment s'inscrit et compagnie. Comme ça, les gens pourront te contacter directement.
Eh bien, avec plaisir, je te transmettrai toutes ces informations. J'en profite au passage pour dire que dans chacune des villes, on est évidemment à la recherche de partenaires, comment dire, de structures qui peuvent accueillir ou qui veulent accueillir un événement de ce type-là. Donc, c'est aussi un sujet sur lequel on peut me contacter, moi ou Stéphanie. Voilà.
OK. Et donc, en fait, par exemple, je ne sais pas, il y a des notaires qui pourraient proposer d'accueillir l'événement ou l'ordre des avocats de certaines villes, peut-être. Ça peut être c'est ça, c'est intéressant pour toi, ça.
Oui, tout à fait, exactement. Voilà, que ce soit du coup des universités, des ordres, tout à fait, quelle que soit du coup la profession, c'est tout à fait envisageable. Voilà, on sait qu'on discute aussi avec des incubateurs dans certaines villes, des incubateurs de professions juridiques. Donc voilà, on est ouvert à toutes les possibilités.
Ok, bah le message est passé. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation, Maëlien.
Merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.